Parenthèse, le podcast pour des bébés apaisés et des parents heureux par Calmosine. Bonjour et bienvenue dans le podcast La Parenthèse. La Parenthèse, c'est un podcast produit par Calmosine pour vous accompagner sur le chemin de la parentalité. Parce que devenir parent, c'est s'engager pour la vie dans une carrière sans formation ni diplôme, et parce que des parents apaisés font des enfants heureux, Calmosine a imaginé ce podcast comme une pause pour adoucir votre quotidien. Un rendez-vous audio pour vous aider à trouver vos propres ressources et la confiance nécessaire pour entrer dans votre rôle de parent. Je m'appelle Marine, je suis journaliste et maman de deux jeunes enfants et je suis très heureuse de vous présenter ce nouvel épisode de La Parenthèse. Bonjour à tous et à toutes. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais devenir parent est un formidable accélérateur de compétences dans des domaines très divers. Sens de l'observation, empathie, analyse et gestion des risques, prise de décision, maîtrise du stress en situation critique. Oui, c'est aussi et surtout cela être parent, prendre soin de son enfant, le protéger dans toutes les situations. Dans cet épisode, on balaye pour vous le béaba à connaître pour soulager les petits et gros bobos qui peuvent survenir dans la première année de votre bébé. Avec Emmanuelle Frelin, infirmière puéricultrice et maman de 4 enfants, et le témoignage de François Charles, papa d'Ulysse, 2 ans et demi, et futur papa d'une petite fille. Bonjour François Charles, bonjour Emmanuelle.
Bonjour.
Bonjour Marine.
Alors François Charles, on va commencer par ton témoignage. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ta première année en tant que père ?
Le premier moment, vraiment révélation. Que j'ai vécu en tant que père, c'est cette première semaine de congé paternité que j'avais pris en décalage par rapport à ma femme pour qu'elle puisse reprendre son emploi, où je me suis retrouvé seul finalement avec mon fils, d'un petit bébé qu'on découvre, et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a pu avoir une relation ensemble et où j'ai créé ces premiers réflexes père-fils, et ça m'a vraiment marqué. Le second moment, finalement, arrive assez tardivement et un peu plus loin. On est plutôt vers les 8 mois. Et c'est ce moment où on peut commencer à avoir un retour. Et tous ces 6 premiers mois, on a passé du temps à écouter de la musique ou à essayer d'interagir, à essayer de comprendre, de tâtonner. Et d'être là pendant les moments de joie et les moments de pleurs, où on commence à avoir ses premiers retours, ses premiers sourires, ses premiers échanges. Et ça, c'est vraiment définitivement une période qui m'a marqué.
Tu parlais des moments de joie et aussi des moments plus difficile de pleurs. Est-ce que c'est ça qui a été parfois plus difficile à gérer pour toi dans cette première année ?
Oui, totalement. Ce qui a été le plus difficile à gérer pour moi, c'est avant tout la frustration. La frustration en tant que père d'essayer de comprendre des choses avec peu d'expérience et surtout des choses sur lesquelles on a peu la main. Comprendre l'origine des pleurs, par exemple, quand on n'a pas de repère. On a l'impression que la maman, elle, gère plus, a un contact affectif qui lui permet de mieux réussir. Mais finalement, pas du tout. On est tous les deux une sorte d'équipe qui essaye de créer des indicateurs ou de balbutier dans des mouvements. Le but, et ce qu'on veut, c'est de trouver une solution. On veut vraiment bien faire, mais la frustration reste là, puisqu'en fait, il n'y a pas forcément la réponse.
Et dans ce contexte, quel parent, quel papa est-ce que tu étais ? Est-ce que tu étais plutôt inquiet, plutôt serein, confiant, méthodique ou très stressé par moment ?
Je pense que finalement, pour moi, être papa, c'est vraiment être ou être père, c'est un exhausteur de tout ce qu'il y en a de plus profond en soi. Et dans mon cas, c'est quelque chose qui a vraiment révélé le côté émotionnel, empathique et qui s'adapte à toutes les situations. Donc ce côté qui s'adapte à toutes les situations, ça m'a permis d'être pragmatique face à des petits bobos, les poussées dentaires, les coliques. Je déployais toutes les solutions possibles sans vraiment de stress, avec patience, en regardant des tutos, en essayant des gestes, en tâtonnant, et finalement plutôt bien réussir. Et à l'inverse, des situations de stress complètement ingérables avec des sujets comme le sommeil, finalement être capable de se réveiller toutes les nuits pendant des mois et de pouvoir gérer l'arrivée sereine, paisible devant un bébé qui est perdu dans la nuit. Ça, c'est quelque chose qui a été très compliqué, surtout avec un bébé qui aujourd'hui a 2 ans et demi et ne dort toujours pas. Donc, c'est toujours un sujet de travail pour moi.
ce sont les pleurs qui vous ont le plus heurté et mis à l'épreuve. Tu me parlais de tes voyages. Est-ce que dans tout ça, dans ce chaos parfois, vous avez trouvé des solutions à deux?
Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment la clé et ce dont je suis le plus fier, en tout cas, c'est qu'avec ma femme, on a réussi à être complémentaires. On n'est pas égalitaire, on n'est pas dans une répartition des tâches optimale à 50%, c'est pas du tout ce qu'on recherche. C'est vraiment de pouvoir se faire confiance et lorsqu'on a les pleurs de bébé, de pouvoir compter sur les qualités ou les défauts de chacun et de, au bon moment, le moment juste, celui que l'on ressent à deux, de pouvoir interagir. L'exemple qui me marque le plus, c'est parfois cette complémentarité, elle a aussi ses limites, mais la limite pour les deux. Je me souviens que nous avons, donc ma femme est brésilienne, on voyage souvent pour aller voir la famille et on a fait un voyage pour y aller avec 11 heures d'avion où bébé a pleuré pendant les 11 heures. Donc on a essayé de se déplacer, on a essayé de lui donner à manger, d'essayer de jouer avec lui. C'était un petit bébé de 8 mois à l'époque. Et on a déployé toutes les solutions, on a essayé de se relayer. Et au final, on arrive complètement épuisé et on finit aux urgences le lendemain au Brésil pour découvrir que finalement, bébé avait une otite plus une poussée de 3 dents et qu'en fait, il y avait concrètement rien à faire à part être patient. Donc c'est encore une fois cette frustration, cet esprit d'équipe. Je pense que parfois, sur ces petits bobos ou ces pleurs, il faut être aussi capable de lâcher prise et de compter l'un sur l'autre.
Alors, vous allez bientôt accueillir votre deuxième enfant, une petite fille, d'ici un mois. Est-ce qu'en tant que coparent, tu te sens prêt, plus armé peut-être?
Alors moi, je me sens complètement en confiance. J'ai la chance de partager ma vie avec une personne qui, justement, elle aussi, compte sur moi et axe sur la confiance mutuelle. Je sais qu'on va se répartir idéalement les choses et qu'on s'adaptera en fonction de ce nouvel enfant. On n'est pas du tout sur un bis repetita du premier. Donc, je l'envisage assez sereinement. On mettra encore une fois tout ce qui est à notre pouvoir pour pouvoir se compléter et réussir l'accueil de cet enfant. Et finalement, si je devais rajouter un espoir, c'est qu'on arrive à l'accueillir au mieux en fonction de sa personnalité. Donc de pouvoir s'adapter au mieux en fonction de cet enfant et d'essayer aussi de l'inclure au mieux ou d'inclure sa personnalité dans le foyer, le cadre familial que l'on veut placer tous ensemble. Donc on sera quatre personnalités qui formeront une famille. Donc ça, c'est vraiment le souhait et l'espoir que j'ai à la vue du cadre qu'on a aujourd'hui.
Avec un peu de recul, qu'est-ce qui t'a été le plus précieux en tant que jeune père, selon toi ?
Ce qui m'a été le plus précieux, c'est cette confiance mutuelle dont j'ai parlé avec ma femme. Dans un milieu ou un terrain hostile, qu'est la parentalité, que sont des montagnes russes de sentiments, d'émotions, de faire face à des situations de petits, gros bobos, stress, bonheur, nouvelles découvertes. Finalement, ce qui m'a le plus aidé, c'est toujours le dialogue, de pouvoir se rendre compte que ma solution n'est pas forcément la bonne, celle de ma femme n'est pas forcément la bonne, mais peut-être qu'en discutant et en ayant ce dialogue, c'est souvent le terrain du milieu qui est le meilleur. Et c'est souvent ce dialogue qui m'a aidé dans ces moments de stress, de manque de sommeil et de faire face à ces petits bobos.
Est-ce qu'il y a des questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse?
Énormément. Être parent, c'est sans cesse se remettre en cause. C'est sans cesse être dans le doute, mais aussi dans l'apprentissage. Donc, il y a énormément de questions que l'on se pose sur soi, sur la façon dont on peut être parent, un parent idéal. Donc, finalement, les questions, en tout cas la question, moi, je pense, qui est la plus importante, c'est parmi toute cette pression que l'on reçoit de l'enfant, du cadre, de l'école ou des nouvelles parentalités, ma question, c'est peut-être comment est-ce que finalement, pour être un bon parent, on ne peut pas juste revenir à l'essence même de qui on est, l'accepter et lâcher prise une bonne fois pour toutes. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment la question clé pour arriver à être le plus serein devant ses enfants et finalement profiter le plus de ce qui est le plus beau ou le plus beau moment de sa vie, qui est que sont les instants en famille.
Merci. On va demander son avis à Emmanuel sur ces questions de petits et gros bobos et de tous ces enjeux de la première année.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Merci d'être là.
Je t'en prie.
Alors toi, tu es infirmière puéricultrice et maman de 4 enfants, donc tu es doublement expérimentée sur ces sujets.
C'est ça.
Alors qu'est-ce qui fait que cette première année soit si particulière, merveilleuse, mais aussi éprouvante parfois pour les jeunes parents ?
Quelque chose de très basique, c'est qu'en fait, la naissance d'un bébé, c'est un vrai bouleversement, c'est un tsunami dans la vie des parents. Et si ça semble assez évident quand on parle de la naissance d'un premier enfant, en fait, c'est quand même quelque chose qui peut se voir, même pour un deuxième, un troisième, un quatrième. Mm-hmm. En fait, quel que soit le nombre d'enfants qu'on a, je pense qu'à chaque naissance, c'est le tsunami. Et à chaque naissance, on redevient parent et on se réinvente parent. Mm. Donc, c'est une grande découverte, en fait, à chaque fois.
Dans cette première année, le défi, surtout quand c'est le premier, on découvre qu'un bébé, ça pleure. Parfois beaucoup, parfois moins. Qu'est-ce qu'on peut dire à des parents ? On a eu une discussion pour préparer cet épisode et tu as eu des propos très justes pour rassurer les parents qui se sentent désarmés face aux pleurs de leur nouveau-né.
Moi, quelque chose que j'aime rappeler et garder en tête également, c'est que le bébé qu'on accueille à la naissance, il n'est pas très différent de celui qu'on avait dans son ventre quelques heures avant, quelques jours ou quelques semaines avant. Et pour lui, par contre, tout est complètement différent. Il était dans un environnement chaud, humide, bercé, nourri en permanence, sans aucune contrainte. Et là, il arrive, c'est un tsunami pour lui aussi. Et du coup, parfois, c'est compliqué. Cette transition, elle n'est pas forcément évidente. Elle peut être plus ou moins délicate. Donc, en fait, c'est un petit peu tout ça qui est compliqué pour les parents. Ça va être de pouvoir accompagner l'enfant dans cette transition. Et on parle de plus en plus du quatrième trimestre et je trouve que c'est très intéressant d'avoir ça en tête. C'est qu'en fait, c'est plus un bébé dans son ventre, c'est un bébé dans les bras. Et petit à petit, on va l'aider à se détacher, s'éloigner. Enfin, ça prendra le temps qu'il faut. Mais en tout cas, cette idée vraiment de transition où on est vraiment dans un rôle d'accompagnant et de facilitateur pour que l'entrée dans le monde, en fait, se fasse au mieux. Et en fait, le bébé humain, c'est... Il arrive, il naît, il est complètement dépendant de ses parents ou de l'adulte de référence, tout ça, pour la satisfaction de tous ses besoins vitaux. Et en fait, c'est ça aussi qui est une grosse charge pour les parents et un gros stress et qui peut augmenter toute cette inquiétude vis-à-vis des pleurs ou de l'incompréhension, tout ça, c'est que ce bébé, il a besoin de nous et du coup, il faut le comprendre, en fait. Et il n'arrive pas avec un mode d'emploi. Il va falloir découvrir tout ça, en fait, ensemble.
C'est apprendre à le connaître et l'accepter aussi tel qu'il est.
C'est ça, en c'est fait. Un bébé qui sera complètement différent de ce qu'on peut lire dans les livres, de ce qu'aura pu raconter la copine ou enfin n'importe qui, parce qu'on a chacun des expériences qui sont complètement différentes. Donc voilà, c'est accueillir ce bébé-là et de faire en sorte que ça se passe au mieux avec ce qu'il nous renvoie, en fait, parce qu'il communique à sa façon, avec les pleurs notamment, mais avec d'autres choses également. Et du coup, prendre tout ça en compte pour arriver à le comprendre et lui apporter les réponses qu'il attend.
Alors justement, pour apporter les bonnes réponses, on a l'impression qu'il faut quand même savoir décoder au bout d'un moment ces pleurs. Ils peuvent être liés à plein de choses. Il y a le besoin de manger, la fatigue, la couche mouillée, le chaud ou le froid, ou des douleurs, de l'inconfort. Comment savoir et comment ne pas se sentir coupable quand on a l'impression qu'on ne comprend pas ?
Je pense que les premières semaines, il y a toujours cette petite phase d'incompréhension parce que, effectivement, c'est les pleurs qui vont être là pour tout un tas de raisons. Donc, il va falloir savoir quelles raisons. Mais quand on discute avec les parents, on se rend compte que très rapidement, quand même, on arrive à identifier quelques causes. Très facilement, une maman ou un papa va nous dire bah là, il a besoin qu'on change sa couche. Là, il a faim. Là, c'est parce qu'il a sommeil, il cherche son sommeil. Enfin, il cherche à s'endormir. Donc, toutes ces petites choses-là, on arrive à les identifier. Et de temps en temps, eh ben, il y a des pleurs qu'on n'arrive pas à comprendre. Et là, c'est là que souvent, on se retrouve en difficulté et que les parents ont encore plus besoin d'être épaulés dans ces moments-là parce qu'il va falloir réussir à faire face et soit comprendre ce qu'il y a derrière, soit juste accepter que c'est un moyen d'expression et que peut-être il faut juste être là pour le rassurer, mais qu'on ne va pas forcément toujours pouvoir calmer les pleurs, en fait.
Puis, on peut parler aussi de ces pleurs de décharge ou qu'on appelle aussi coliques, les pleurs incessants autour de 4 à 6 semaines souvent.
Alors, les pleurs de décharge et coliques, c'est un petit peu différent. Les pleurs de décharge, par exemple, ça va être des bébés qui, dans la journée, vont être dans un environnement un petit peu bruyant, entre guillemets, mais où il y a beaucoup d'agitation, où on va pas être forcément super disponible. Et du coup, souvent, ça va être le soir, au moment où les parents sont un petit peu plus dispo, il y a moins de monde autour, on a moins de choses à faire. Et ben, c'est le moment où l'enfant, lui, va pouvoir exprimer un petit peu toute cette tension qu'il a pu ressentir. J'ai souvenir, par exemple, en ayant travaillé en maternité, de journées où on passait dans les chambres voir les mamans et le bébé était dans les bras et souvent on passait de bras en bras, grands-parents, tontes, ça, avec du monde dans la chambre et puis le bébé, il dormait, on le voyait pas, enfin. Et puis le soir, on repassait dans la chambre au moment où la maman était toute seule et là, c'était un petit peu festival avec toutes ces pleurs de décharge, justement, et du coup, le moment où les mamans craquent. Aussi un petit peu.
Oui.
Après, les coliques, ça va être un petit peu différent. Ça va plutôt être en lien avec une immaturité digestive, un inconfort. Voilà. Mais les pleurs de décharge, c'est plus réactionnel et émotionnel, en fait.
Mmh. On a un épisode dédié aux petits maux de ventre, aux troubles digestifs, qui arrive juste après.
Donc, tout un sujet.
Tous les jeunes parents pourront l'écouter. Daniela, dans son témoignage, nous parle de son inquiétude en cas de fièvre de son bébé. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le sujet de la fièvre? Parce qu'on devient un peu médecin de son bébé hein, quand on devient parent. Les bases, comment on prend la température? Comment on sait si son bébé a de la fièvre?
Alors déjà, il faut quand même garder en tête que la fièvre, en fait, c'est une réaction de l'organisme face à une petite attaque. Pas forcément grave, hein, mais voilà, un virus, un microbe, quelque chose qui arrive. Et du coup, l'organisme, il va chauffer pour pouvoir tuer cet attaquant, en fait. Donc en fait, la fièvre, elle a un rôle. Et du coup, elle n'est pas forcément ni grave ni embêtante. Ce qui est embêtant, ça va être plutôt la tolérance à la fièvre et la façon dont l'enfant va la supporter. Donc, pour prendre la fièvre, l'idéal, c'est de prendre un thermomètre électronique et puis de prendre sous le bras, au niveau d'un axillaire. De plus en plus, on demande d'éviter de prendre la température en rectal. Donc, c'est vrai qu'on évite. Il y a foison de thermomètre qu'on peut trouver aussi à infrarouge. Donc voilà, il faut juste s'assurer d'avoir un thermomètre qui soit assez fiable. Donc souvent, il faut mettre un petit peu le prix quand même. Et après, ce qui est important dans la fièvre, c'est pas tant le chiffre qu'il est, que le bébé est 38,8, 38,9. C'est pas trop la différence. Ça va plutôt être de voir est-ce que la fièvre monte ou est-ce que la fièvre descend. Donc ça, c'est l'élément qu'on va pouvoir surveiller. Mmh. Et surtout, savoir comment l'enfant supporte. Parce qu'on a des enfants qui, à 39,5, vont être en pleine forme. Et d'autres qui, à 38,8, vont commencer à être un petit peu abattus et à se sentir pas bien, à être inconfortables. Donc, c'est plutôt ces éléments qui sont à prendre en compte. Par contre, la chose évidente, c'est qu'avant 3 mois, on rigole pas et on consulte, en fait.
Dès qu'il y a de la fièvre.
Ouais.
Et à partir de combien on estime qu'il y a de la fièvre?
38,5. Et là encore, souvent, c'est plutôt même la tolérance. Mais voilà, de toute façon, avec un enfant de moins de 3 mois, on joue pas les apprentis sorciers, on joue pas les médecins à domicile. Il vaut mieux appeler un médecin pour être assuré que de pas appeler, passer à côté de quelque chose.
Est-ce que c'est vrai que quand on prend la température sous le bras, on doit ajouter 0,5?
0,5 à 0,8 suivant les études, ouais.
D'accord. Donc en dessous de 3 mois, on consulte s'il y a suspicion de fièvre ou s'il y a fièvre. Ensuite, selon la réaction du bébé, voilà, on consulte, on attend, on voit comment ça évolue.
On le découvre,
ouais,
on le met en body, on ne laisse pas avoir froid dehors, hein. Mais à la maison on le découvre en tout cas, parce qu'il y a aussi tout ce phénomène de régulation de la température pour lequel l'enfant n'est pas encore complètement mature, donc on l'aide en enlevant les épaisseurs.
D'accord.
Le bain 2 degrés en dessous, ça c'était de l'époque de nos mères et de nos grand-mères, donc ça on évite également, mais juste parfois un petit peu d'eau sur la tête, sur le visage, juste pour aider à rafraîchir. Voilà, une pièce ventilée, on évite d'être dans une pièce effectivement dans laquelle il va faire 24, 25 ou 30 degrés. Bon là, on arrive à des chaleurs qui ne vont pas aider. Et là, on évalue, on voit comment il va, comment il supporte. Et si besoin, on consulte. En tout cas, on appelle un médecin.
Alors, souvent, on nous conseille de donner du paracétamol. Est-ce qu'on peut en donner comme ça dès l'instant où on constate qu'il y a de la fièvre ou est-ce qu'il faut toujours un AV médical avant?
Alors, je pense que quand on est jeune parent, les premiers temps, on voudra toujours avoir un avis et c'est bien. Avant de prendre des décisions, de se forger peut-être un petit peu son ressenti par rapport à son bébé. Après, on voit souvent qu'effectivement, avec l'expérience, au fil des mois qui passent ou des enfants qui arrivent, les parents prennent des décisions qui sont un petit peu différentes. Je pense qu'effectivement, pour un premier enfant, c'est quand même mieux d'avoir un petit avis. Mais après, voilà, si on voit que l'enfant n'est pas bien, mais qu'il n'y a pas d'autres signes, c'est juste de la fièvre, on peut effectivement donner du Doliprane. Toutes les 6 heures, pas plus.
Alors parfois, et même souvent malheureusement, on n'a pas de pédiatre tout près de chez soi. On peut être loin des urgences. Dans ce cas-là, on s'autorise à effectivement donner du Doliprane. On prend la route, on fait une visio Est-ce que c'est recommandé?
Eh bien, je pense qu'il y a de plus en plus, effectivement, de services qui permettent d'avoir un avis sans forcément se déplacer, puisqu'en plus, effectivement, géographiquement, on n'a pas forcément tout ça sous la main. Et puis, le Covid a fait émerger quelques services qui, au final, simplifient un petit peu la vie quand on a besoin d'un avis. Et, parce qu'aller aux urgences pour une fièvre, y passer 6 heures... risquer au contraire d'attraper quelque chose d'autre. Et puis effectivement, saturer les services d'urgence pour une fièvre, c'est un petit peu dommage. Donc je pense que quand il y a moyen de passer un coup de fil à un médecin ou de faire appel à ces services un petit peu parallèles, c'est toujours intéressant. Après, il y a les services aussi d'urgence où on peut aussi avoir un conseil et où diront aux parents, là, il faut aller consulter, là, vous pouvez aller aux urgences, voilà. Mais ils vont évaluer, ils prendront en compte tout un tas de symptômes ou s'il y a des signes associés, s'il y a d'autres éléments d'inquiétude. Et dans ce cas-là, ils diront, ben non, là, vous donnez du Doliprane, vous restez à la maison, vous surveillez, ou alors, ben non, vous allez consulter, par exemple.
Alors, on parlait de médicaments, de thermomètres. Qu'est-ce qu'il y a dans la bonne trousse à pharmacie des tout jeunes parents?
Eh ben, du Doliprane. du gel dentaire. Je dirais, parce que ça arrive assez vite.
Ça arrive quand? Si vite que ça?
Bah, il y a des enfants pour lesquels les gencives travaillent très très tôt. En fait, vers 2-3 mois, on va commencer à voir que ça travaille. Et c'est pas pour autant que les dents vont pousser. Mais en tout cas, il y a tout un processus qui se met en place et qui peut être inconfortable et douloureux parfois. D'accord. Donc, les poussées dentaires, c'est quand même, si on se souvenait, je pense qu'on pourrait se souvenir que ça faisait mal. Donc, faut pas hésiter là, à masser, à utiliser des gels dentaires. Quand les enfants commencent à se déplacer également, on peut aussi avoir les gels d'arnica, ce genre de choses, pour les bosses, quand ils se cognent. Et puis, il y a des familles qui vont avoir envie aussi d'utiliser l'homéopathie. Et pour le coup, là aussi, il y a pas mal de petites choses qui peuvent permettre de soigner les petits bobos. Et en tout cas, de donner, voilà, de prime abord quelque chose avant de voir s'il faut aller vers autre chose.
D'accord. Alors, dans la première année, malheureusement, ça arrive quand même souvent, les chutes, la chute de la table allongée, la chute à cause du grand frère qui a renversé le transat. Comment on évalue la gravité d'une chute? Comment on réagit?
Alors, si c'est une chute, je dirais c'est une chute d'un bébé, là, comme tu viens de dire, de table allongée, de transat. Il faut essayer de voir si la tête a cogné, déjà, en fait, c'est important. Mais tout de suite évaluer, est-ce que le bébé a pleuré ou pas? Est-ce que son état de conscience reste normal ou pas? Et est-ce qu'il y a vomissement ou pas? Ça, c'est des trois signes. Voilà. Un enfant qui a perdu connaissance, qui va pas pleurer tout de suite, par exemple, ou alors après qui va être un petit peu...
différent?
Voilà, un petit peu groggy, ou alors qui va vomir. Dans ce cas-là, c'est de toute façon une urgence, donc on consulte. Après, si c'est les enfants, par exemple, qui vont commencer à bouger un petit peu, les enfants qui sont dans l'exploration motrice, c'est aussi un moment où il y a pas mal de boss et de petits bobos en tout genre. Là, il faut essayer de voir est-ce que la tête a cogné ou pas, et on repasse sur la même surveillance. Et si c'est des chutes, quelque chose que je trouve assez... intéressant. Par exemple, si un enfant, pour la première année, ou même parfois un petit peu après, quand ils chutent et qu'ils sont par terre, je trouve que c'est bien de pas se précipiter vers eux pour les prendre. Parce qu'en fait, s'il y a une fracture, s'il y a eu quelque chose qui s'est déplacé, en fait, on risque de faire plus de mal que de bien. Et c'est toujours important, c'est intéressant, je trouve, quand l'enfant est tombé, d'attendre de voir s'il va bouger. En fait, tu veux te redresser. Genre. Et si l'enfant se rassoit, ou pour le plus grand, s'il se remet debout, on peut déjà se dire que ça va, en fait. Alors que si on le mobilise sans avoir eu le temps de voir s'il avait mal quelque part ou pas, ça peut être embêtant. Donc nous, c'est quelque chose qu'on gardait vraiment à l'esprit à l'époque où je travaillais en crèche. On attendait de voir si... Enfin, on allait vers l'enfant, on s'assoit avec lui, on voit où ça... Mais en tout cas, de laisser le temps de réaliser ce qui s'est passé et de se remettre un petit peu soit à quatre pattes, soit assis, soit...
Est-ce que c'est vrai que quand il y a une chute sur la tête et qu'il y a la nuit qui arrive, il faut réveiller son bébé toutes les 2 ou 3 heures pour voir s'il répond et s'il est...
Ça, c'est dans les prescriptions de sortie de l'hôpital en général. Ouais, ils vont demander à ce qu'il y ait une évaluation neurologique. Alors, c'est un bien grand mot. Mais donc là, ça sera sur prescription, en fait, en fonction de la gravité de la chute, de ce qu'ils auront pu observer au moment de l'examen, des premières réactions de l'enfant après la chute. Ça, c'est tout un ensemble qui va faire qu'ils vont prendre ou pas cette décision. Déjà, de le laisser sortir de l'hôpital ou pas. Et s'il le laisse sortir, est-ce qu'il y a besoin de faire une surveillance particulière ou pas?
D'accord, donc c'est un avis médical.
Ouais, c'est un avis médical.
Alors, il y a aussi les gastro, les petits problèmes digestifs. Comment on interprète des vomissements? Comment on interprète une diarrhée? Est-ce qu'il faut réagir? Est-ce que ça peut être normal dans la physiologie d'un bébé entre 0 et 1 an?
Alors, la gastro, c'est l'association de deux signes parmi diarrhée, vomissement ou fièvre. Donc, une diarrhée isolée, un vomissement isolé, c'est pas une gastro. Il peut y avoir des situations où effectivement l'enfant, il suffit qu'il ait un petit peu de fièvre par exemple, et il va pouvoir vomir sans pour autant qu'il y ait un problème vraiment digestif. En fonction de ce qu'il va manger, enfin, il peut parfois aussi avoir des petites réactions où il va y avoir un vomissement complètement isolé, puis après tout va bien, il joue, il va très bien. Donc là, c'est pas, voilà, on n'est pas dans le cadre d'une gastro. Mmh. Après, ce qui est important, c'est un petit peu comme la fièvre, ça va être de voir comment il tolère tout ça. Et notamment, est-ce qu'il remange, est-ce qu'il boit, est-ce qu'il garde ce qu'il boit, est-ce qu'il mange, en fait, parce que ça va plutôt être ça l'élément de gravité. C'est-à-dire qu'un enfant qui vomit et qui n'arrive pas à boire, ou un enfant qui a une diarrhée, par exemple, très sévère, qui n'arrive pas à boire, eh ben, il y a un risque de déshydratation qui peut arriver très rapidement. Donc là, dans ces cas-là, on est aussi dans quelque chose à surveiller et à soigner. Et à, voilà. Donc la consultation sera importante.
Parmi ces maladies de la petite enfance, il y a ce moment de l'entrée en crèche ou chez une assistante maternelle, et on le sait, l'enfant va se confronter à d'autres germes, un grand nombre de germes, et arrive le temps des rhumes, des infections en série. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Est-ce qu'il faut prévenir? Est-ce qu'il faut laisser faire parce que c'est bien, il fait son immunité?
Prévenir, j'ai pas l'impression qu'il y ait moyen de prévenir. Effectivement, il y a cette notion de faire son immunité. Dans les légendes, on dit que effectivement l'enfant doit rencontrer un certain nombre de germes et microbes et virus en tout genre dans ses deux premières années pour faire son système immunitaire. C'est clair que c'est... Je pense que c'est pas possible de l'éviter. De toute façon, la collectivité fait qu'on rencontre tout ça, et c'est en l'ayant rencontré qu'après on peut y faire face plus tard. Ce qui est évident, c'est que l'enfant, par exemple, quand il rentre en crèche, souvent il va passer l'hiver à avoir le nez qui coule, une petite toux, parfois des fièvres un peu isolées. Et là, dans ce cas-là, ce qui est important, c'est de nettoyer le nez de l'enfant, pas laisser les choses s'aggraver et tourner vers, par exemple, vers une bronchiolite ou vers un encombrement chronique. Donc voilà, on va pas pouvoir éviter, mais on peut faire en sorte qu'il le vive mieux. Et du coup, éviter aussi que, par contre, que ça ne s'aggrave, en fait, que ça devienne quelque chose d'autre.
Le lavage de nez, par défaut, il faut le faire? Quand et à quel rythme?
Alors, il y a plusieurs écoles quand on rentre à la maternité. Il y a encore des endroits où on dit de laver le nez très régulièrement. Il y a d'autres endroits où ça ne se fait plus trop. Donc là, je ne statuerai pas là-dessus. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'à partir du moment où l'enfant a le nez un petit peu encombré, un petit peu pris, c'est toujours intéressant de lui nettoyer son nez parce qu'il ne peut pas se moucher, tout simplement. Et qu'une fois que le nez est bouché, il aura du mal à respirer parce que la respiration buccale n'est pas encore... le réflexe n'est pas encore complètement évident. Donc, d'une manière toute simple, il faut le soulager de toute façon. D'accord. Donc, voilà. Je pense qu'à partir du moment où l'enfant a le nez qui coule, on lui nettoie son nez, en fait. Et on l'aide à se moucher. Et bien, quand ils sont petits, la méthode, c'est les pipettes, comme on va...
Les pipettes souvent, de sérum fille.
Les pipettes de sérum fille, où on va nettoyer le nez en allongeant le bébé sur le côté. Et de plus en plus, quand ils sont plus grands, on voit apparaître le système de seringue où là, ça, on va asseoir l'enfant et on va pouvoir nettoyer le nez en faisant circuler d'une narine à l'autre, ce qui est plutôt efficace. Voilà. Après, ce qui est important surtout, c'est que chaque parent trouve sa méthode et la méthode qui convient à son bébé, parce qu'il y a des fois, on n'arrivera pas à nettoyer avec telle ou telle méthode, alors que telle autre. Des parents utiliseront un mouche-bébé, d'autres non.
Donc, il n'y a pas de contre-indication au mouche-bébé?
Non. Non, non. Je pense que ce qu'il faut, c'est trouver la méthode qui permet d'être efficace et de soulager son bébé. Après, s'il y avait une méthode, ça se saurait, mais c'est comme dans tout, dans ce qui concerne la parentalité, il faut trouver ce qui nous convient, en fait, et ce qui convient à notre enfant.
Sur les petits maux du ventre, la digestion, comme la constipation ou les gaz qui peuvent arriver souvent, est-ce qu'il y a des gestes à connaître pour soulager son bébé sans s'affoler? Parce qu'une petite crise de constipation, ça peut être très impressionnant.
Oui.
Est-ce qu'on peut finir aux urgences pour ça, ou est-ce qu'il y a des choses à faire?
Effectivement, on peut. Alors, la constipation, elle peut apparaître à plein de moments pour le bébé. Hein, c'est une adaptation de sa digestion. Donc, ça peut se trouver au moment où on va commencer un lait infantile, changer de lait, ou en fonction, au moment de la diversification aussi, où tout le transit est modifié. Donc, ça peut être intéressant de connaître un petit peu des massages pour soulager son bébé, pour aider son transit. Donc, là aussi, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs méthodes. Je pense que l'idée générale à retenir, c'est que quand on regarde son bébé, la circulation de la digestion, enfin du système digestif, se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Mm-hmm. Partant de là, ça donne un petit peu une indication sur la façon dont on peut masser son bébé.
Donc,
on peut
faire des massages. Est-ce que tu penses que c'est intéressant de regarder des tutos et des vidéos?
Je pense, oui, parce que c'est des gestes tout simples qu'on va pouvoir faire plusieurs fois par jour, juste en massant le bébé ou parfois en repliant un petit peu les jambes et en massant également le ventre. Donc ça, c'est des choses toutes simples, à la portée de tout le monde, et ça prend 5 minutes, et puis ça peut aider. Ça peut aussi aider l'enfant à évacuer ses gaz, qui peuvent lui faire mal, puisque quand l'enfant a beaucoup de gaz, il y a une dilatation intestinale, c'est inconfortable. Enfin voilà, c'est tous ces petits gestes qui vont pouvoir l'aider à être soulagé. C'est aussi la façon dont on va le porter dans les bras, par exemple, le porter sur notre avant-bras en ayant la main sur son ventre, ou alors le mettre sur l'épaule en ayant le ventre sur notre épaule. Tous ces petits moments où on va venir mobiliser le ventre et aider un petit peu tout le transit à avancer, en fait.
Est-ce qu'il y a des choses naturelles de compléments alimentaires ou de supplémentation qui peuvent aider nos bébés à avoir une meilleure digestion, un meilleur transit?
Ouais, on peut utiliser des solutions à base de plantes, donc on trouvera en pharmacie. Donc là, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à demander conseil au pharmacien ou à son médecin qui pourra donner des indications. Et aussi, par exemple, si la maman allait de son bébé, il y aura parfois besoin d'essayer de mettre en relation comment va son bébé, comment va le transit par rapport à ce qu'elle mange. Mmh. Parce que parfois, certains bébés sont plus sensibles que d'autres. Donc, en termes de constipation ou parfois de diarrhée ou d'inconfort ou d'acidité gastrique. Donc, c'est aussi intéressant pour un enfant allaité de voir si la maman peut changer quelque chose ou peut adapter quelque chose dans son alimentation, juste le temps qu'il aille mieux, en fait.
Mmh. Par exemple, pour avoir des repères sur l'allaitement, d'où peut venir un inconfort digestif du bébé,
les premières semaines, par exemple, si la maman mange des légumineuses, des pois chiches ou beaucoup de choux, il peut y avoir un inconfort du bébé. Mmh. Quand elle mange beaucoup d'agrumes également, il peut y avoir une acidité gastrique. D'accord. Et ça, c'est pas une règle, enfin c'est pas une vérité absolue. Il y a des enfants qui vont être plus sensibles que d'autres, et des fois, quand il y a une nuit de Java, on va dire ah mais c'est vrai. Hier, j'ai mangé. Dans ce cas-là, la maman va faire le rapprochement. Et puis, du coup, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus en manger. Ça veut juste dire attendre un petit peu, peut-être le temps que le système digestif soit plus mature et puis que le bébé réagisse moins à tout ça, en fait.
Mmh. On parlait du massage et de ses vertus. Est-ce que le portage, ou en écharpe ou en porte-bébé, quel qu'il soit, tant que c'est physiologique comme position, est-ce que le portage a les mêmes vertus thérapeutiques que les massages, étant donné qu'il y a du contact?
Alors, ce n'est pas les mêmes vertus, ça va se compléter. Le portage ne va pas remplacer un massage. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va venir en complément. Et je pense que quand on est démuni, enfin, quand il y a tous ces petits maux, on essaye différentes choses. Et après, au bout du compte, on ne saura pas forcément ce qui a marché. Mais en tout cas, effectivement, le portage physiologique, le fait que l'enfant ait les jambes repliées vers lui, surtout les premières semaines, on peut vraiment le mettre en boule, en fait, le mettre dans cette position physiologique. Ça peut le soulager, et même si ça va pas soulager en soi directement le problème, en tout cas ça va le contenir, ça va le rassurer. Mmh. Il va être de toute façon ça va entraîner un meilleur confort.
Quel est le conseil le plus précieux que tu aies reçu et que tu transmettrais à des jeunes parents? Alors là, je dis conseil de pro, mais aussi et peut-être surtout conseil de maman.
Moi, je dirais que, enfin, je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il n'y a pas une solution, il n'y a pas une vérité. Et c'est important de se faire confiance et de faire confiance à son bébé, en fait. Parce que si on cherche juste à appliquer ce qu'on a lu, ce qu'on a entendu, pour se rassurer, sans voir les signes que nous renvoie notre bébé, je ne suis pas sûre que ça marche, en fait. Donc, c'est vraiment faire confiance à cette dyade, maman-bébé ou papa-bébé, en fait. Et alors, c'est sûr que les conseils, ils sont importants. C'est important d'être épaulé, c'est important d'avoir des informations. Mais il y a un moment ou un autre où, en fait, la personne qui va connaître le mieux son enfant, c'est son parent. Donc, voilà, je pense que ce serait peut-être ça que j'aurais envie de dire. Se faire confiance.
Merci. Merci, Emmanuel.
François-Charles, quel conseil, en tant que jeune et futur père, tu donnerais à ton tour aux futurs et jeunes pères que tu rencontres ?
Le conseil que je donnerais, c'est avant tout de passer le plus de moments possible avec ses enfants, d'essayer de partager le plus de ce qu'on trouve beau en soi ou le plus des passions que l'on adore. Parce qu'au début, on l'a dit, c'était assez difficile, on n'a pas de retour. Mais maintenant qu'il a 2 ans et demi, je m'aperçois que tout ce que j'ai passé comme temps, je le reçois, il le remontre et il me surprend. Et de plus en plus, ça lui a surtout donné l'envie à lui de partager ce qu'il aime. Et c'est finalement ça, cet entrenouement et cette relation père-fils qui a été créée grâce à ces moments de partage.
Merci. Merci à tous les deux pour votre intervention.
La parenthèse, c'est le podcast produit par Calmosine pour vous préparer et vous accompagner dans vos premiers pas de parents, pour être les parents les plus à l'aise possible, des parents apaisés. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou partager vos expériences, vous pouvez vous rendre sur les pages Instagram et Facebook de Calmosine. Merci pour votre écoute et à bientôt.